VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso et Chérubin Dorsil, bienvenue à l'édition du mardi 1er septembre 2015, à la une ce soir.
Nouvelle attaque contre une base de l'Union africaine en Somalie. Les islamistes Shebab ont pris d'assaut une base ougandaise de la MISOM. La situation reste confuse, la force africaine nie en avoir perdu le contrôle.
En RDC, le ministère public confirme son réquisitoire, soit la condamnation à perpétuité pour les 5 auteurs présumés de l'assassinat du défenseur des droits de l'homme Floribert Chebeya en cas d'acquittement. Verdict.
Le ministère public pourra former le pouvoir en cassation et nous l'accompagnerons.
Maître Richard Bondo, avocat des parties civiles. Dans le nord du Mali, 2 soldats maliens tués dans une attaque à Tombouctou. Le bilan reste provisoire. Les auteurs de cette attaque demeurent pour l'heure inconnus.
Crise migratoire en Europe, l'Allemagne qui a vu arriver 3500 personnes dans les 24 dernières heures semble plus accueillante que ses partenaires européens. En Hongrie, la gare principale de la capitale a dû être fermée ce mardi à des centaines de migrants. Les politiques cherchent un front commun.
L'économie et les sports ?
Exactement, nous aurons aussi l'économie et les sports, mais tout de suite le journal.
En Somalie, les islamistes du groupe Al-Shabaab se sont emparés temporairement aujourd'hui d'une base ougandaise de la mission de l'Union africaine dans le sud du pays. Cela s'est précisément passé à Janalé, dans la région de Basse-Chabelle. La MISOM a indiqué avoir subi des pertes sans donner de bilan précis, Jacques Aristide.
Les combattants d'Al-Shabaab ont utilisé une voiture bourrée d'explosifs pour faciliter leur entrée dans le camp avant de viser les soldats, d'après la MISOM, qui ajoute que ces troupes ont effectué un retrait tactique après la première attaque aux véhicules piégés. Elles se sont regroupées après et ont repris le contrôle de la base. La force africaine était en train d'évaluer le nombre de tués et l'étendue des dégâts. Un porte-parole avait plutôt indiqué à l'AFP qu'environ 150 soldats ougandais étaient basés dans le camp de Janal. Des habitants ont fait état de dizaines de tués dans les rangs de la MISOM, affirmant qu'Al-Shabaab avait pris dans la matinée la base désertée par les troupes. Un autre témoin a indiqué avoir vu 20 cadavres de soldats africains et a ajouté que les combattants d'Al-Shabaab s'étaient emparés des armes et des munitions. Un porte-parole d'Al-Shabaab a expliqué que cette attaque avait été menée en représailles au meurtre par des soldats ougandais de la MISOM de 7 civils qui participaient à un mariage en juillet dernier.
Procès en appel de l'assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazana. La haute cour militaire confirme la condamnation à perpétuité. Maître Richard Bondo, l'un des avocats des parties civiles, se montre tout de même confiant quant à l'issue de ce procès. Les précisions de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Tout ce que les prévenus et leurs conseils ont dit s'inscrit dans la droite ligne de leur stratégie de défense de tout nier. C'est-à-dire pour eux, Chebeya n'a jamais été au quartier général de la police nationale. Chebeya n'a jamais été invité par le général Numbi. Mukalai n'a jamais utilisé Mouila pour déposer l'invitation et monter le guet-apens contre Chebeya. Donc c'est leur stratégie. Mais nous avons démontré et décortiqué cela dans le sens de faire voir, avec le concours du ministère public qui est l'accusation, que les faits sont établis dans le chef des prévenus et que tous ceux qui ont été acquittés devraient voir l'arrêt qui leur était favorable et réformé dans le sens de les condamner. Et ceux qui ont été condamnés, le même arrêt être confirmé pour néanmoins, pas à la peine capitale, condamné à la peine capitale, mais comme le ministère public et nous l'avons postulé, à la servitude pénale à perpétuité.
C'était Maître Richard Bondo, avocat des parties civiles au procès Chebeya sur Top Congo FM.
Le chef de milice congolais Bosco Ntaganda face à ses juges. Son procès doit s'ouvrir le 2 septembre, donc demain, devant la Cour pénale internationale à La Haye, aux Pays-Bas. Ntaganda est accusé de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en 2002 et 2003 dans l'est de la République démocratique du Congo.
L'armée congolaise confirme la libération des 6 imams tanzaniens enlevés au début du mois d'août. Le chef du département communication de la 34e région militaire du Nord Kivu confirme la nouvelle sans donner de détails sur leur état de santé.
Libye, l'État islamique revendique l'attentat contre le siège d'une compagnie pétrolière. Une personne a été blessée, une personne au moins. C'était dans l'explosion d'une voiture piégée. D'autre part, 5 soldats des forces du gouvernement internationalement reconnus de Libye ont été tués lors d'affrontements avec les djihadistes de l'organisation État islamique. Et l'explosion d'une mine à Benghazi, rapporte l'agence LANA, proche du gouvernement.
En Sierra Leone, 50 personnes personnes ont été placées en quarantaine dans le nord du pays, dans une zone où une femme décédée a été testée positive à Ebola, ont annoncé mardi les autorités qui cherchaient à déterminer l'origine de la contamination.
Au Nigeria, l'ex-conseiller à la sécurité nationale du pays, Sambo Dasuki, a été inculpé ce mardi par la justice pour possession illégale d'armes à feu et placé en liberté sous caution.
Nigeria toujours, le pays veut être débarrassé de la polio d'ici 2017. C'est un objectif fixé par le président Muhammadu Buhari. Le système de surveillance et de vaccination devrait être renforcé. Des moyens humains et matériels suffisants devraient être dégagés pour lutter contre la maladie. Le Nigeria est le dernier pays du monde avec le Pakistan et l'Afghanistan où la polio continue d'exister à l'état endémique.
Afrique du Sud, l'exploitation de gaz naturel pourrait constituer une solution efficace pour aider ce pays à répondre à la crise énergétique qui affecte son économie depuis plusieurs années. Le rapport de McKinsey prévoit l'aggravation des coupures de courant ces prochaines années en Afrique du Sud en raison de la hausse de la demande et de la vétusté des centrales à charbon. Ces nouvelles exploitations devraient permettre, au moins à court terme, de soulager le réseau électrique qui a atteint l'extrême limite de ses capacités.
En Ouganda, les parlementaires ont entamé mardi l'examen d'un projet de loi donnant aux autorités de très larges pouvoirs de contrôle sur les ONG et dont les défenseurs des droits de l'homme craignent qu'ils permettent au gouvernement d'étouffer toute critique.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le changement climatique est une menace urgente et croissante. Ce sont les propos du président américain Barack Obama lundi, au début d'une tournée de 3 jours dans l'Alaska. La visite a pour but de mobiliser l'opinion sur la question de l'environnement. Félix Yepassi-Zembro.
Dans un discours lors d'une conférence parrainée par le département d'État sur les questions environnementales dans l'Arctique, M. Obama a déclaré que le problème du changement climatique devient de plus en plus dramatique à chaque année qui passe. Les organisations de défense de l'environnement ont pris au mot le chef de l'exécutif américain et, en dépit de son soutien à la cause, l'ont accueilli sur le site de la conférence avec des manifestations protestant contre la récente décision de son administration de permettre à la société Shell Oil d'étendre un de ses forages au large des côtes de l'Alaska. Pendant sa tournée en Alaska, le président envisage de faire un tour sur le plateau glacier où il devrait s'entretenir avec les pêcheurs et tourner une émission de télé-réalité. Avant son départ pour l'Alaska, le président a fait l'objet de critiques de la part de certains législateurs pour sa décision de renommer le mont McKinley, la plus haute montagne de l'Alaska, Denali. Les peuples autochtones de l'Alaska désignaient ainsi le sommet, ce qui signifie le grand ou le haut dans la langue de l'Athabasca. M. Obama est le premier président américain en fonction à visiter le cercle polaire arctique.
Crise migratoire en Europe. La Hongrie a fermé ce mardi la principale gare de Budapest à des centaines de personnes espérant rejoindre l'Autriche ou l'Allemagne. À la gare de Munich, un groupe de Bavarois a accueilli aujourd'hui quelques dizaines de migrants avec des pancartes de bienvenue. Berlin a gagné en popularité en renonçant à renvoyer vers leur pays d'entrée dans l'Union européenne les Syriens fuyant la guerre. La police fédérale allemande a indiqué que 3500 demandeurs d'asile étaient arrivés entre lundi matin et mardi après-midi dans le sud-ouest de l'Allemagne, en passant par la frontière depuis l'Autriche, un chiffre record dans cette région. L'Europe reste divisée sur la réponse adéquate face à cet exode massif. Une réunion des ministres de l'Intérieur de l'UE devrait se tenir dans environ 2 semaines pour plancher sur une approche commune.
En Syrie, l'ONU a confirmé, image satellite à l'appui, la destruction complète du fameux temple de Bel à Palmyre, dans le désert syrien. Le groupe État islamique a rasé ce joyau de l'humanité, écrit l'AFP. Pour le directeur des Antiquités de Syrie, Mamoun Abdelkarim, il s'agissait du plus beau symbole de toute la Syrie. C'est selon lui le dernier acte avant la destruction complète de Palmyre. Érigé il y a 2000 ans, le temple de Bel est le plus connu des monuments de la ville antique de Palmyre, qui figure au patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO.
Ici aux États-Unis, le département d'État vient de publier une nouvelle série de documents échangés via e-mail par l'ex-secrétaire d'État et actuelle candidate à la présidence Hillary Clinton. Certaines portions des 7000 pages publiées hier ont été censurées afin de protéger des secrets. Mais Mme Clinton continue d'affirmer qu'aucun de ces messages électroniques pour lesquels elle a utilisé son ordinateur et son serveur privé n'était classé secret. L'affaire a déjà un impact négatif sur sa campagne électorale, dans la mesure où une majorité d'Américains disent maintenant douter de son honnêteté. Dans le premier État qui tiendra une élection primaire, l'Iowa, elle a maintenant moins de 50% d'intention de vote.
À quand la fermeture de la prison américaine de Guantanamo ? Barack Obama en avait fait la promesse depuis 2008 lors de sa première campagne électorale. Mais c'est compliqué, a déclaré ce mardi le patron du Pentagone Ashton Carter, admettant qu'environ la moitié des 116 détenus de Guantanamo doivent rester enfermés indéfiniment. Répondant à des questions posées par des militaires américains dans le monde entier, le secrétaire à la Défense a dit qu'il faut trouver d'autres lieux de détention aux États-Unis si Guantanamo doit fermer. L'administration d'Obama travaille sur un plan à présenter au Congrès pour le transfert des détenus. Parmi les destinations possibles, des prisons militaires situées dans les États du Kansas et de la Caroline du Sud.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs. C'est la Minute Éco ce soir avec Claire Morin-Gibourg.
Hausse de 4,3% de l'activité économique au Sénégal sur les 6 premiers mois de l'année 2015. Les autorités sénégalaises ont précisé que, hors agriculture et sylviculture, le secteur tertiaire avait augmenté de 3,9% et le secteur primaire de 2,5%. Seul le secteur secondaire s'est très légèrement replié de 0,8% pour le second trimestre 2015. Le Nigérian Aliko Dangote, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique, a affirmé hier qu'il prévoyait d'investir au Zimbabwe dans les domaines de l'énergie, du ciment et du charbon, après une rencontre avec le président Robert Mugabe. Le milliardaire nigérian a annoncé qu'il souhaitait dépenser près de 400 millions de dollars pour construire la plus grosse usine de ciment du pays, qui produira 1,5 million de tonnes par an. Cet ensemble d'investissements devrait permettre à créer des emplois, selon lui, et d'aider le Zimbabwe à développer son économie. Le pays subit une grave crise économique depuis plus de 10 ans. Et puis cette grève illimitée des agents des impôts au Mali, selon l'agence APA, ce mouvement de grève a démarré aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire et il porte essentiellement sur des revendications d'avancement de carrière. Les grévistes veulent notamment que la mobilité des cadres soit encouragée et qu'il y ait une meilleure politique de ressources humaines.
Merci pour la Minute Éco, Claire.
Et nous passons tout de suite à la page sport avec Bagassi Koura. Salut Bagassi.
Oui, bonsoir Chérubin, bonsoir à tous.
Alors parlons football pour commencer. En République démocratique du Congo, Sanga Balende a un nouvel entraîneur.
Oui, il s'agit du technicien français Lionel Charbonnier qui s'est engagé selon Foot Africa 365 pour 2 saisons en faveur de cette formation de l'élite congolaise. Une formation basée à Mbujimaye dans la province du Kasaï oriental. Il faut le dire, Lionel Charbonnier est un ancien sélectionneur de Tahiti, ancien DTN de l'Indonésie et il a été gardien international français.
Et tu as bien dit Tahiti, pas Haïti. En football toujours, le Camerounais Alex Song, prêté à West Ham.
Oui, le milieu camerounais de 27 ans a, comme la saison passée, été prêté une année à West Ham par Barcelone. L'an passé, il est tout jeune retraité international, s'est pleinement intégré au dispositif des Londoniens avec lesquels il a disputé 31 matchs. West Ham a également annoncé lors de la dernière journée du mercato estival les arrivées de plusieurs recrues, dont l'ailier nigérian Victor Moses, qui a été prêté par Chelsea.
Sur le marché des transferts, Anthony Martial fait du bruit, Bagassi.
Oui, du bruit autour de l'argent. Et l'attaquant de 19 ans de Monaco, Anthony Martial, donc, s'est engagé avec Manchester United pour 4 saisons avec une cinquième en option. Selon les médias, les deux pays pourraient avoisiner les 80 millions d'euros.
Et maintenant, une discipline qui plaît particulièrement à Bagassi Koura, le volley, 8e journée de la Coupe du Monde dames.
Voilà, la Russie a dominé le Pérou 3-0, même score pour le Kenya face à l'Algérie, 3-0. République dominicaine a, elle, été battue par la Corée du Sud 3-1. Défaite de l'Argentine contre la Chine 3-0. 3-0 également pour les États-Unis contre Cuba. Et le Japon s'est fait battre par la Serbie 3-2. Et dans le classement, on a États-Unis en tête, suivi par la Russie. La Chine est 3e. Le Kenya, premier pays africain, est au 10e rang. Et l'Algérie ferme la marche au 12e rang.
Et donc l'Afrique fait bonne figure. Merci Bagassi Koura pour les sports.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chérubin Dorcil et Tatiana Mosso en votre compagnie. Place au dossier du jour. Première escale, le Mali. Alors Gabi, dans le nord malien, il y a la traque des terroristes à Tombouctou qui fait l'actualité, mais aussi et surtout le risque de nouvelles hostilités dans la région de Kidal.
Oui, Tatiana, après avoir accepté de se retirer de la ville d'Anéfis, le Gatia, mouvement pro-gouvernemental, pose de nouvelles conditions, affirmant que la population souhaite rester sous sa protection. Alors, pour faire le point sur la situation, Claire Morin-Gibourg a joint le directeur de police du journal malien Le Prétoire, Dramane Fall.
Malheureusement, l'occupation de cette ville du nord du Mali va en porte-à-faux avec les accords d'Alger qui demandent que chaque parti doit garder sa position. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est de revenir dans l'accord d'Alger, alors que malgré l'intervention du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a rencontré les responsables de la plateforme de Gatia à Bamako l'autre jour pour leur sommet de quitter la ville d'Anéfis, les troupes sur le terrain refuse catégoriquement de le faire. C'est-à-dire qu'il y a une rupture entre la base et le sommet. De ce que nous sommes dans un imbroglio qui ne dit pas son nom.
Est-ce que ce refus des combattants et des chefs militaires de quitter Anéfis, ce n'était pas prévisible pour vous?
Ben, c'était prévisible parce que durant l'occupation de cette ville par les troupes de MNLA, ils ont cessé de violer les droits les plus élémentaires des populations locales. Donc la cohabitation était devenue telle que c'était une question de survie. Et c'est ce que la plateforme a compris et ils sont allés contre l'avis de tout le monde, de l'opinion internationale et même de Bamako. Bamako n'a aucune prise aujourd'hui sur ces troupes qui occupent Anéfis. Donc si on ne fait pas attention, ce serait un éternel recommencement parce que au-delà même de Anéfis, c'est la ville même de Kidal qui est encerclée. Et l'attaque est imminente, ça peut déborder à tout moment. C'est pourquoi le président Ibeka est allé en Algérie et il est à Niamey aujourd'hui vraiment pour essayer de trouver une solution à cette situation qui risque vraiment de remettre tout en cause.
Est-ce que les possibilités de négociation du président Ibrahim Boubacar Keïta ne s'amenuisent pas de jour en jour vis-à-vis de cette situation?
Ça s'est déjà amenuisé parce qu'il les a rencontrés et à faire de leur sommet de quitter la ville d'Anéfis. Les dirigeants ont fait un accord, mais sur le terrain, les troupes ont refusé catégoriquement. Donc nous sommes face à une situation de blocage devant laquelle le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même n'a plus les mains libres. C'est pourquoi il est en train de passer par Alger et Niamey pour trouver une solution à cette situation. Parce que l'objectif de ces populations, c'est qu'ils ont soif de la liberté, ils ont soif de libérer leur territoire. Ils ne sont pas dans la même dynamique que Bamako, qui veut contenter l'opinion internationale. Donc voilà l'équation devant laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a un véritable blocage, le processus de paix est véritablement menacé et les gars de la plateforme qui sont pro-gouvernementaux ne veulent plus lâcher. Ils veulent coûte que coûte en découdre avec ces groupes rebelles, les MNLA, les autres membres de la coalition des groupes armés. C'est la situation qui se présente au nord maintenant.
Dramane Fall, directeur de publication du journal Le Prétoire, basé à Bamako.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Cap sur le Burkina Faso, une semaine entière consacrée à la promotion du tissu en cotonnade dans ses diverses utilisations vestimentaires et décoratives. Tel est l'objectif du salon d'Anfani Fashion Week qui veut faire du pagne tissé une marque à la conquête du marché. Les exposants sont venus de plusieurs pays de la sous-région. Reportage de Zoumana Wonogo, notre correspondant à Ouagadougou.
D'Anfani, du djoula Dan qui veut dire tissé et Fani étoffe, est à l'honneur sur l'avenue Kwame Nkrumah de Ouagadougou. Dans le cadre du salon d'Anfani Fashion Week. Marguerite Douaniou, la promotrice de ce salon textile à ciel ouvert, s'explique.
L'avenue Kwame Nkrumah, c'est une avenue qui est très fréquentée. On espère que la population verra ce que les créateurs proposent désormais avec le pagne tissé. C'est un grand marché qu'on cherche maintenant pour le Faso d'Anfani. Les artisans ont besoin de commandes. Ils n'ont plus besoin de tisser comme ça parce qu'il faut tisser, sans réellement savoir qu'est-ce qu'il faut faire après de leurs produits. Donc l'idée, c'est que cette semaine-là, il y ait des acheteurs professionnels, il y ait des chefs d'entreprise, il y ait vraiment des gens qui peuvent permettre à ces artisans-là de vivre, par exemple, toute une année sans avoir à s'inquiéter parce qu'ils auront une grosse commande.
Empruntant cette avenue marchande, nous avons fait une halte au stand du Burkina Faso. Comment va le marché avons-nous demandé à la vendeuse? On écoute.
Tamira Ouedraogo de l'association La Fille à Vie. Et ce sont nos mamans qui tissent les pains du coton du Burkina Faso. Le pain est bien solide. Sa durée de vie, on peut donner 5 ans si on l'utilise permanemment.
Les prix très élevés du Faso d'Amfani constituent un frein à sa promotion au Faso, suivant la démonstration avec Madame Esther Barry.
Ça, c'est une réalité. Parce que le Faso d'Amfani coûte cher. Quand tu veux l'avoir de bonne qualité, il faut aller jusqu'à 25 000 en montant. Pourtant, le pain qui nous vient de l'extérieur, on peut l'avoir facilement à 3 000.
À propos des prix du Faso d'Amfani, la promotrice du d'Amfani Fashion Week se pose alors en avocat défenseur. On écoute Marguerite Douaniou.
Quand on voit deux femmes ensemble, une qui est habillée avec un pain imprimé et l'autre avec d'Amfani, c'est tout de suite celle qui a porté d'Amfani qu'on regarde. Ça veut dire que c'est un produit de luxe. C'est vrai, il est cher parce que la matière première n'est pas forcément à la portée. Et on se dit que s'il y a une volonté politique derrière ça, si par exemple le fil est subventionné, on pourra proposer des pains de très grande qualité à la disposition de tous les Burkinabés. Il est cher, c'est vrai, mais il faut voir aussi le travail qui est fait derrière. Et puis c'est fait main. Tout ce qui est fait main cher, c'est pas de l'industriel.
L'un des objectifs de ce salon de la cotonnade est la promotion vestimentaire typiquement burkinabé. Sibiri Nestor Samlé est burkinabé vivant aux États-Unis.
D'abord, quand on voit ça, on crie. Vous ne pouvez pas porter ça et passer inaperçu. Et c'est à notre grand honneur aussi qu'on répond. Je viens du Burkina Faso, le pays des hommes intègres.
Zoumana Bonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
En République démocratique du Congo, le gouvernement envisage de développer dans chaque province une méga-ferme de 50 000 à 150 000 hectares pour la consommation locale et l'exportation. Selon les autorités, un tel plan devrait assurer la sécurité alimentaire en RDC. Le correspondant de VOA Afrique, plutôt de la Voix de l'Amérique, Nick Long, a visité l'une de ces fermes à Bukanga Lonzo, à environ 150 km de Kinshasa. Lionel Gaïma reprend ici son reportage.
Le site de Bukanga Lonzo est sur un plateau et 5000 hectares y sont actuellement cultivés. Isaac Salé, économiste au bureau du Premier ministre.
Là, c'est la partie qu'on est en train de récolter, que vous voyez vous-même. C'est à peu près 3300 hectares qu'ils sont en train d'être récoltés maintenant, avec les passionnaises batteuses.
Une bonne partie de la production de ces méga-fermes sera mécanisée et quelques 7000 emplois créés dans un proche avenir sur la ferme. Les employés vont travailler à temps plein, cultivant et récoltant chaque jour des légumes sur 1000 hectares irrigués avec des arroseurs rotatifs sur 20 immenses pivots.
Il a une longueur d'au moins un terrain de football pour un seul pivot. Et il est dimensionné tel que la culture soit plantée chaque jour et récoltée chaque jour.
La nourriture est destinée à Kinshasa et devrait aider, selon le gouvernement, à réduire la facture de 1,5 milliard de dollars que la RDC paie chaque année pour ses importations de vivres. Bukanga Lonzo va devenir ainsi une nouvelle ville avec des industries de transformation et de nombreux autres emplois. Le gouvernement se dit prêt à consacrer 100 millions de dollars aux infrastructures, notamment le réseau électrique et une station de pompage d'eau. John Ulimwengu, principal conseiller agricole du Premier ministre, souligne que ce parc agro-industriel servira de modèle pour les autres provinces. Le gouvernement détient la majorité des actions et loue des terres aux investisseurs pendant 25 ans. Monsieur Ulimwengu explique ici pourquoi le gouvernement consacre tant de ressources à des fermes spécifiques. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture partout dans le pays. C'est pourquoi nous avons estimé que ce serait beaucoup plus facile de développer un site, parce que sur un site spécifique, le gouvernement peut créer l'environnement requis pour attirer les investisseurs. Clément Bekia, agronome dans un centre près de Bukanga Lonzo, est lui contre une telle approche.
Vous allez voir que les investissements qu'ils ont faits dans les parcs agro-industriels, si on les faisait aux petits producteurs familiaux, on pouvait trouver les aliments de première qualité, les aliments de première nécessité au marché.
Mais Ulimwengu trouve que ce n'est pas réaliste.
Let's be honest. If
Soyons honnêtes, si 80% ou presque de la population est impliquée dans l'agriculture, elle ne peut pas nourrir 30% de la population. Cela signifie que ce n'est pas fait de manière efficace et beaucoup d'autres personnes devraient faire autre chose. Outre les 11 mégafermes, le gouvernement envisage de lancer de plus petits centres de développement agricole de 200 à 300 hectares à travers le pays.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Coup de projecteur sur la crise de l'immigration en Europe. Ces dernières semaines ont été marquées par de nouvelles tragédies humaines. De nombreux migrants venant du continent africain. Que peut et veut faire l'Europe pour régler le problème? Que pouvez-vous suggérer? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TV.
Tatiana, parlons à présent du drame des migrants en Méditerranée et de ce nouveau bilan publié hier.
Selon l'OIM, l'Organisation internationale des migrations, le nombre des migrants et de réfugiés ayant trouvé la mort en tentant de rejoindre l'Europe a atteint le chiffre de 2373 depuis le début de l'année. Le bilan à la même période en 2014 s'élevait à 2081 migrants, mais pour Florence Kim de l'OIM, les efforts déployés ces derniers mois ont permis de faire baisser le nombre de morts.
Écoutez, nous sommes là aujourd'hui, au 1er septembre, à 2643 morts. Il y a effectivement un nombre de morts cette année et ce chiffre est alarmant. On a eu plus de 350 000 arrivées depuis le 1er janvier sur les côtes méditerranéennes. En revanche, lorsque l'opération européenne Triton a été renforcée, dès la fin avril, on a pu assister à une baisse significative du nombre de morts. On est passé à 95 morts en mai et à 10 au mois de juin. C'est vrai que le mois d'août a connu encore un autre pic, mais on peut espérer que si nous continuons les efforts conjoints et entre l'Union européenne, par exemple, et puis l'Union africaine, ces chiffres-là pourraient baisser.
Parlez-nous de ces efforts-là. Qu'est-ce que l'Union européenne fait exactement ?
Bah écoutez, l'Union européenne, qui a pris conscience fin avril de l'urgence de la situation, a décidé de renforcer l'opération Triton, qui avait remplacé l'absence de Mare Nostrum, qui avait permis de sauver de nombreuses vies et qui avait été menée pendant une année par l'Italie toute seule et qui lui avait coûté quelques millions d'euros.
Alors, est-ce qu'il s'agit d'opérations de sauvetage ou de répression ?
Non, justement, en fait, l'opération Mare Nostrum, donc il y a deux, qui avait été lancée en fin octobre 2013, avait permis de lancer des opérations de sauvetage dans le bassin méditerranéen. Puis, à l'arrêt de cette opération-là, l'opération Triton était une opération de patrouille, donc un peu opérée par Frontex, l'agence de contrôle des frontières. Avec l'urgence de la situation en Méditerranée en avril, l'opération Triton s'est finalement convertie un peu plus en opération de sauvetage comme le faisait l'opération Mare Nostrum. Et c'est ce qui fait qu'on a pu sauver de nombreuses vies depuis la fin avril.
Alors on sait que la plupart de ces migrants tentaient d'atteindre l'Italie, la Grèce et même l'Espagne. Mais est-ce qu'on sait d'où ils viennent majoritairement ?
Pour l'Italie, par exemple, on voit qu'une grande majorité arrive de l'Érythrée, du Nigeria, de la Somalie, du Soudan. Et pour la Grèce, la majorité arrive de l'Afghanistan et de la Syrie.
Florence Kim de l'OIM a été jointe à Genève par Bagassi Koura.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, dans Universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Présentation, Tatiana Mosso et Chérubin
Dorcy.
Pour toi, c'est Gabi.
Retrouvez-nous sur Facebook et sur notre site internet voaafrique.com, Gabi.
Ainsi va le monde aujourd'hui.
«
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.